7-9.
Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Nous sommes le lundi 31 janvier. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les votants de la primaire populaire ont choisi Christiane Taubira. Elle appelle à l'union de la gauche, on l'entendra dès le début du journal, sans convaincre pour l'instant. Les autres titres, Anaïs.
La fin du masque obligatoire en extérieur cette semaine, début du retour à la normale dès mercredi, mais les infectiologues s'inquiètent de la levée des jauges. Second procès pour Nordal Lelandais. Il comparaît à Grenoble pour le meurtre de Maëlys et soutient la thèse accidentelle comme dans la mort du caporal noyé. Dans ce journal aussi, opération régularisation des sans-papiers en Irlande et on va swinguer dans la Russie de la guerre froide. Étonnante découverte d'un compositeur de jazz soviétique.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Et maintenant quoi? Que faut-il penser de la primaire populaire? Peut-elle créer une dynamique pour la gauche ou accroître au contraire la confusion? On pose la question à Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos, avec qui on fera un point sur les tendances de l'opinion à 70 jours, jour pour jour du premier tour.
Et à 8h20, Léa, le grand entretien de la matinale avec la romancière Leïla Slimani, donc. Elle publie jeudi 3 février, cette semaine, Regardez-nous danser. C'est le deuxième volet de sa trilogie Le Pays des Autres, chez Gallimard. Dialoguez avec elle, évidemment. Le standard vous attend, il est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La victoire de Christiane Taubira hier soir à la primaire populaire serait-elle l'échec de l'union de la gauche? Car voilà bien une candidature supplémentaire. Favorite d'une primaire dont elle était la seule grande candidate à en avoir accepté les règles, Christiane Taubira l'emporte sans surprise avec une mention bien plus. Ni Yannick Jadot arrivé second, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Anne Hidalgo cinquième derrière Pierre Larouturou ne voulaient en entendre parler. Et c'est pourtant à eux et au communiste Fabien Roussel que l'ex-garde des Sceaux de François Hollande s'adresse après le choix des quelques 400 000 votants.
Au nom de vos choix de ce soir, je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. Je le ferai en respect. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Je le ferai en respect, parce que je l'ai déjà dit, chacune, chacun est légitime à sa place. Chacune, chacun est fondé sur son parcours, sur ses combats, sur ses actions, est fondé à être à la place qu'elle et il a choisi d'occuper. Mais notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement.
Christiane Taubira, hier soir. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Clarification ou confusion ce matin? Qu'en pense-t-on du côté des écologistes et des insoumis?
Alors pas concernés du tout. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot poursuivent leur campagne comme si de rien n'était. La primaire populaire est un non-événement pour eux. La montagne a accouché de la souris dont on l'avait inséminée, Christiane Taubira, femme autoproclamée providentielle, finalement une candidate de plus. À ce jeu de « je ne te vois pas, tu n'existes pas », Yannick Jadot a pourtant plus de soucis à se faire. L'entrée en campagne de Christiane Taubira, si l'on en croit en tout cas les sondages, agit mécaniquement depuis plusieurs semaines contre lui.
Autre candidate qui a du souci, Anne Hidalgo, cinquième, est-ce que ça sème le doute?
Alors officiellement, le PS fait bloc. Tout le monde savait, à scène le socialiste marseillais Patrick Mennucci, que c'était une primaire non pas pop, mais pipeau. Ce sont les frondeurs, leur chef, Christian Paul, qui sont derrière tout cela. Ils poursuivent depuis 10 ans leur travail de sape et ils ont trouvé en Taubira un alibi bien pratique. Anne Hidalgo ne lâchera pas. C'est, je cite un autre élu socialiste, une meuf en titane. Au pire, c'est elle qui reconstruira la social-démocratie comme Pedro Sanchez l'a fait en Espagne. Gros bémol toutefois, les élus de grands départements, notamment en Ile-de-France, l'équipe de France des maires aussi, semblent déserter actuellement la campagne. Mais il y a un argument de poids. Si l'on débranche Anne Hidalgo aujourd'hui, on perd tout l'argent investi, rappelle un socialiste. Anne Hidalgo ira donc jusqu'au bout. Et aucun élu socialiste ne donnera son parrainage à Christiane Taubira.
Laurence Perron, Christiane Taubira qui est actuellement autour de 5% d'intention de vote. Son entourage espère l'avoir décollé. Elle qui s'est lancée dans la campagne il y a 2 semaines. Les réactions des candidats, c'est aussi à lire en détail sur franceinter.fr. Et puis on en reparle à 7h50. Et puis voici un chiffre comme un pavé dans la mare en pleine campagne. 7 milliards d'euros de dettes cumulées entre 2015 et 2019 par la ville de Paris, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes dont la presse se fait l'écho ce matin. La mairie l'explique par les dépenses de santé dues à la crise du Covid et par la diminution des financements de l'État.
Il est 7h05, assiste-t-on Anaïs à une décrue des contaminations au coronavirus.
Cette décrue tant attendue semble s'amorcer mais on reste prudent, le nombre de nouveaux cas reste toujours élevé, stabilisation en revanche en soins critiques. Dans ce contexte, les règles sanitaires s'assouplissent cette semaine à partir de mercredi. Que pensent les infectiologues de ces mesures? Guillaume Dominguez, ne sont-elles pas prématurées?
En fait, tout dépend de la mesure. En ce qui concerne la fin de l'obligation du port du masque en extérieur, une grande partie des spécialistes sont unanimes. Rien ne prouve son efficacité pour lutter contre la circulation du virus en plein air. Le docteur Benjamin Davidot, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine, voit donc d'un bon œil la fin de cette obligation.
Moi, c'est quelque chose que je réclamais depuis longtemps, puisque scientifiquement, il n'y a pas d'élément pour penser qu'il y a un bénéfice et qu'à l'extrême, il vaut mieux qu'on garde le masque à l'intérieur dans les bonnes conditions et que le masque en extérieur ne vienne pas un objet de crainte et contre-productif.
A l'inverse, l'infectiologue juge la levée des jauges en intérieur totalement prématurée compte tenu de la circulation du virus.
Il y a une étude intéressante qui a montré que lorsqu'il y avait plus de 30 personnes, vous aviez 85% des cas d'être cas contact et donc de fait d'être contaminé. On voit bien qu'à partir du moment où on augmente les jauges, eh bien vous allez augmenter cette probabilité de vous contaminer.
Et la fin du télétravail ne va rien arranger. Plus de 30 000 personnes sont hospitalisées en France à cause du Covid-19, rappelle l'infectiologue. Un chiffre record que l'on n'avait plus atteint depuis avril dernier, au pic de la troisième vague.
Les premières têtes tombent dans le groupe Orpea, visé par le livre Enquête sur les pratiques dans les maisons de retraite gérées par l'entreprise. Le directeur général a été démis de ses fonctions cette nuit. C'est le président du conseil d'administration qui devient PDG à la veille de la convocation chez la ministre. Sa disparition à une fête de mariage, puis la découverte de son corps avait saisi la France d'une vague d'émotions. 5 ans après la mort de Maïlys, le procès hors norme de Nordal Lelandais s'ouvre ce matin à 10h devant la cour d'assises de Grenoble. 3 semaines d'audience, 250 journalistes accrédités et des mystères encore. Pourquoi la fillette est-elle montée dans la voiture? Comment est-elle morte? Accidentellement, soutient l'accusé. L'année dernière à Chambéry, c'est cette même thèse de l'accident qu'il avait soutenue, condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal noyé Jean-Philippe Deniaux.
Dans le box à Chambéry, Nordal Lelandais n'est pas resté muet. Il a beaucoup argumenté, mais sans jamais sortir de sa ligne de défense, évoquant, malgré les évidences, une bagarre que sa victime aurait déclenchée et qui aurait mal tourné. Un scénario peu crédible. Arthur Noyer a été unanimement décrit non violent. Il n'avait d'ailleurs ce soir-là aucune raison de l'être à l'égard de Nordal Lelandais, qui venait de le prendre en stop. Durant les débats, la cour d'assises a tenté de faire évoluer l'accusé. À la barre, sa mère lui a demandé de dire la vérité. Bien sûr que je vais le faire, maman. Sa dernière amoureuse aussi. Tu as été un mec super, Nordal. Continue de l'être. Dis ce qu'il s'est passé. Tu peux pas dire que c'est un accident. Même son avocat a tenté. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On a l'impression qu'il y a le plus et le moins qui se touchent. Tu peux comprendre que ça choque, mais en vain. Pour le procès du meurtre de Maïlys, la cour d'assises de l'Isère va donc là encore tenter de savoir ce qui s'est réellement passé au-delà de la thèse accidentelle à laquelle Nordal Lelandais s'accroche jusqu'à présent dans ses aveux.
Le Var en vigilance orange au vent violent, ça va souffler cet après-midi jusqu'à 130 km/h. Dans le département du Nord, la tempête Cory est attendue sur le littoral à partir de 10h. Il est recommandé de s'éloigner des côtes et de surveiller la montée des eaux.
Et voilà, 7h09, un score à faire pâlir la gauche française.
Et oui, Nicolas, près de 42% des voix pour le Parti Socialiste. Ça se passe au Portugal, où le Premier ministre sortant rafle la majorité des sièges aux législatives. Scrutin marqué aussi par une poussée de l'extrême droite passée à 7% des voix et désormais troisième force politique. En Irlande, des papiers pour les sans-papiers. Le ministère de la Justice lance aujourd'hui une opération régularisation. Durant les 6 prochains mois, ils vont pouvoir s'inscrire et faire une demande s'ils sont installés en Irlande depuis au moins 4 ans. 17 000 personnes pourront en bénéficier. Laura Taouchanoff.
Certains travaillent en Irlande depuis déjà plusieurs années pour un salaire dérisoire. Grâce à ces cartes de séjour de 2 ans, des milliers de personnes vont enfin sortir de l'ombre, espère Nick Anderson, le directeur du Conseil des réfugiés.
They're the carers. Ce sont les aidants qui s'occupent de nos personnes âgées, ceux qui travaillent dans nos transports publics, bref, ceux qui font tourner le pays. Cette opportunité va changer leur vie. Leurs conditions de travail vont certainement s'améliorer. Le stress quotidien qu'ils ont traversé est inimaginable, alors c'est un pas énorme du gouvernement irlandais pour leur offrir un peu de tranquillité et qu'ils avancent dans leur vie.
Mais ce chemin vers la citoyenneté a un coût, 550 euros pour une personne seule, 700 pour une famille. Mary Henderson est avocate au Conseil de l'immigration.
C'est une grosse somme pour quelqu'un qui est payé en dessous du salaire minimum. Vu que le dispositif sera ouvert 6 mois, on espère vraiment que les gens vont pouvoir rassembler les fonds, qu'ils ne seront pas découragés de s'inscrire. Et on espère que de nombreuses personnes vont pouvoir en bénéficier en Irlande.
Aujourd'hui, certains demandeurs d'asile pouvaient attendre jusqu'à 2 ans pour une réponse. Alors vu la pile de dossiers attendus, le gouvernement a promis de raccourcir les délais de traitement.
Dublin, Laura Taouchanov, France Inter. La course au tir de missile sans fin de la Corée du Nord. 7e tir hier depuis le début du mois. Et cette fois, l'essai du missile le plus puissant lancé depuis 2017 par le régime de Pyongyang. Allez, il y en a toujours un. Le petit poussé de la Coupe de France de football s'appelle Bergerac cette année. National 2 qualifié pour les quarts de finale en venant à bout des pros de Saint-Etienne à 1-0. Dernière rencontre ce soir, PSG contre Nice. Lens a été éliminé hier par Monaco. Et puis la Suède qui avait fait chuter la France, sacrée championne d'Europe de handball face à l'Espagne hier soir à 27-26. Enfin, saviez-vous qu'il y avait un Gershwin derrière le rideau de fer et que le monde n'en a jamais rien su ou si peu? C'est pour rendre hommage à ce grand compositeur de jazz russe qui n'a pas eu la carrière qu'il mérite qu'un couple de pianistes franco-russes publie un album. On y découvre donc Alexander Tsfasman, qui composa à distance aussi bien que George Gershwin en pleine guerre froide, Stéphane Capron.
Alexander Tsfasman était un pionnier, un pianiste très populaire. Ludmila Berninskaya, qui a grandi de l'autre côté du rideau de fer, souhaite avec cet album tordre le cou à beaucoup d'idées reçues.
Ici, en Europe, on pense très souvent que le jazz était interdit pendant l'époque soviétique, ce qui n'est pas vrai du tout. Tsfasman, qui a quelques années de différence de Gershwin seulement, il connaissait très bien Gershwin, il a adoré Gershwin, il ne savait même pas que Tsfasman existe. Tellement c'était fort le rideau de fer.
Et sans la guerre froide, Arthur Ancel est certain que Tsfasman aurait fait une grande carrière internationale.
Tsfasman aurait pu être très très populaire puisqu'il avait écrit une pièce pour Benny Goodman. Et Benny Goodman avait adoré, il a dit c'est qui ce type, je veux continuer. Et parce que c'était en 1944, pendant il y avait évidemment une alliance politique nécessaire. Et immédiatement après, dès que les Américains se sont retournés contre les Soviétiques, il n'avait plus le droit de jouer du Tsfasman.
Tsfasman a été le premier en URSS à jouer la Rhapsody in Blue de Gershwin. Cet album rend hommage à un grand compositeur de génie.
Et voilà, c'est bon, hein. Snowflakes, Alexander Tsfasman, et c'est à retrouver sur le label Melodia.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom, aujourd'hui sur le succès paradoxal du biathlon français.